Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Aux armes industrielles citoyens. Ce pourrait être la version économique de la Marseillaise chantée par mon invité. Laurent Moisson est cofondateur des FFI, les Forces Françaises de l'Industrie, qu'il co-préside. Les FFI, ce sont un mouvement d'entrepreneurs et d'investisseurs qui militent pour le Made in France. À l'image des Forces Françaises de l'Intérieur, celles qui résistaient pendant la Deuxième Guerre mondiale à l'envahisseur nazi, les FFI de Laurent Moisson appellent à la reconquête industrielle du pays. Bonjour Laurent Moisson.
Bonjour Ali.
Vous assumez pleinement cette référence au FFI de la Résistance ?
Oui, tout à fait. C'est un clin d'œil effectivement à des glorieux aînés qui ont répondu à l'appel du général de Gaulle. De Gaulle, il n'a pas inventé la Résistance, il a simplement fédéré. Il s'est dit, il y a des gens qui résistent, on va essayer, malgré leurs désaccords, malgré leurs divisions, de les réunir derrière une grande cause. Donc à l'époque, c'était libérer la France. Là, maintenant, c'est reconquérir, d'un point de vue industriel, la France et refaire aimer aux Français leur industrie.
Parce qu'on est dans l'état de 40 de la défaite.
Ou alors, on n'est peut-être pas en 40...
Je parle de la défaite industrielle.
Oui, mais on est peut-être en 42-43, c'est-à-dire qu'on a subi une défaite. Ça, c'est absolument indéniable. Il y a une volonté pour se dire on peut reconquérir notre souveraineté industrielle. Par contre, ce n'est pas gagné du tout.
Ouais. Le pourcentage dans le PIB de la France de l'industrie, c'était entre 17-18%.
Ouais.
Aujourd'hui, on a chuté entre 10 et 11%.
Ouais.
Elle est là, la défaite ?
Elle est là, exactement. Il y a même des gens qui disent qu'on est en train de passer sous les 10, ou qu'on y était. Mais c'est exactement ça. Hein. C'est quasiment divisé par deux le poids de l'industrie, le nombre d'emplois, le nombre d'usines entre les années 80 et aujourd'hui.
En 40, on pensait que la ligne Maginot nous protégeait. Qu'est-ce qui s'est passé là ? On a laissé faire sciemment ou pas ?
Alors, il n'y a pas que du sciemment, effectivement.
Ouais.
Je pense qu'il y a eu un désintérêt. Et ensuite, les Français sont un peuple très idéaliste.
Ouais.
Donc les idéaux, c'est important, la morale, c'est important, etc. Et à un moment donné, on s'est mis à se dire que les ouvriers, c'était un peu les damnés de la terre. Vous voyez, c'est des gens qui étaient exploités dans des lieux difficiles. On avait une image comme ça, très, très proche de Zola, très proche de la première révolution industrielle, où effectivement, les conditions de travail étaient terribles, mais ce n'était plus du tout le cas. Et donc, on a installé cette lutte entre des gens dominés qu'il fallait un petit peu sortir de cette domination, et puis des gens qui profitaient un petit peu de leur travail. Donc ça, c'est rentré dans l'imaginaire. Et donc, on a commencé à dire, toute l'industrie, c'est pas bien. Il faut en sortir, il faut libérer les gens qui y travaillent, qui avaient pourtant une fierté de produire. Je veux dire, ouvrier, c'est pas un gros mot. Ouvrier, ça vient des mêmes champs lexicales que œuvre, que ouvrage, que chef-d'œuvre. On est sur quelque chose de très noble.
Il y avait ça, et il y avait aussi l'idée de la modernité, qu'on pouvait construire des usines sans ouvriers.
Alors voilà, ça, c'est
vous,
ça effectivement.
Patron d'Alcatel.
Exactement, Sertchuruc qui a.
Ouais.
De toute façon, quand on invente des mots et des concepts un petit peu révolutionnaires, il faut déjà se demander si ce n'est pas fumeux et si on n'est pas en train de nous raconter des balivernes. Donc là, on a poussé en fait la réflexion hors sol jusqu'à imaginer qu'on allait pouvoir se concentrer en France que sur les métiers dits, je dis bien dit, à valeur ajoutée, c'est-à-dire la réflexion, l'invention et tout. Et puis,
services.
On va sous-traiter ça à des gens qui font, parce que vous comprenez, ce n'est pas très important. Bilan, on s'est rendu compte que cette vision très presque aristocratique du travail, vous avez les beaux métiers très nobles, et puis le reste, on peut l'envoyer à l'autre bout du monde, que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à inventer, à créer, quand on n'a pas à côté de soi des gens qui font, et d'ailleurs les gens qui font, on se rend compte qu'ils ont une intelligence de la main, une intelligence vraiment autour du produit, qui peut nourrir la réflexion sur de très grandes inventions. Donc il nous faut ça pour, en fait, on ne peut plus inventer comme avant si on ne fabrique pas.
Alors bon, il y a eu quand même une prise de conscience, certes tardive, on a vu quand même le nombre d'ouvertures par rapport au nombre de fermetures être positif ces dernières années, mais ça rechute là, fin 2024, début 2025, ça a chuté, plus de fermetures que d'ouvertures d'usines. À quoi vous l'attribuez ?
Alors, il y a des éléments, toujours, de contexte international. Vous avez le prix de l'énergie qui s'est envolé suite à la crise ukrainienne. Mais dans beaucoup de pays dans le monde, il est revenu à quelque chose de convenable. Nous, aujourd'hui, on a une indexation du prix de l'énergie sur des conventions européennes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, en gros, on l'indexe. C'est-à-dire que l'énergie en France, en tout cas l'énergie électrique, est produite majoritairement par des centrales nucléaires. Ouais. Le coût de production est le même. Ça n'a pas évolué. Bon, bah, comme on l'a indexé sur le prix du gaz en Europe, le prix du gaz a explosé avec la guerre Russie-Ukraine. Et donc, on se retrouve avec ça. On pourrait tout à fait sortir de ce dispositif pour dire on reprend notre indépendance là-dessus et donc on va vendre aux industriels une électricité qui est beaucoup moins chère que ce qu'on fait. Mais on a choisi politiquement de ne pas le faire.
Donc, ce n'est pas gaulliste qu'on a fait.
Non, ce n'est pas très gaulliste. En fait, si vous voulez, vous avez un État qui est très endetté en France et vous avez un opérateur historique qui est EDF qui est très endetté. Mmh. Donc le fait d'expliquer qu'on va laisser un prix indexé sur quelque chose qui les ramène beaucoup plus cher, ça fait une rente du nucléaire qui, pour deux acteurs très endettés, est intéressant. Mmh. Mais si vous faites ça, vous supprimez le dernier avantage compétitif qu'on avait en France, hein, parce que le coût du travail est très cher. Mmh. On a beaucoup de contraintes écologiques sur le foncier, sur beaucoup de choses comme ça. Vous aviez, en gros, cet élément qui était le prix de l'électricité. Eh ben, on y renonce également. Alors, donc à la fin, ça fait beaucoup.
Et bon, il y a la conjoncture internationale, un Trump très protectionniste, très offensif, ouais. On le sait aussi. Vos solutions. Alors, FFI, c'est un regroupement d'entrepreneurs et d'investisseurs. Vous voulez faire de l'influence. Vous voulez connecter les gens, mais vous voulez aussi être très concret. Vous avez créé un fonds d'investissement.
Tout à fait.
L'objectif, c'était 50 millions. Vous en êtes où ?
Alors, écoutez, on commence à faire souscrire. Donc, on en est à peu près 3. Hein. Donc, vous voyez, on peut y aller. On a un premier closing, c'est-à-dire une première étape qu'on doit franchir à 20 millions. Mmh. Donc ça, on pense que ça va aller assez vite, puisqu'on a des gros acteurs qui viennent de l'assurance, de la banque, des fonds d'investissement ou des grands industriels qui ont eux-mêmes réalisé, qui ont vendu une partie de leurs entreprises et qui aujourd'hui sont des investisseurs, qui sont en train de nous rejoindre.
D'accord.
Donc ça, l'appel à l'épargne et à l'investissement des Français, c'est une première solution, c'est très important. La France investit peu dans l'outil productif. Hein, si vous voulez. On se présente au monde comme des révolutionnaires, toujours en train de parler d'idéaux et de choses comme ça. On gère notre argent comme des rentiers. C'est-à-dire on achète de l'immobilier, on veut des loyers, ou alors on met notre argent là où l'État nous dit qu'on va avoir une défiscalisation, etc. La France, c'est le deuxième pays qui épargne le plus au monde par tête d'habitant.
Après derrière le Japon.
Derrière le Japon, exactement. Ouais. Donc on a une épargne qui est absolument considérable, mais on la met ailleurs que sur l'industrie. Donc la première solution, c'est de faire ça. La deuxième solution, c'est de régler nos problèmes structurels. Donc comme vous posez la question, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ferme plus d'usines, etc. Donc on a dit, il y a un problème sur l'énergie, donc nous, on alerte beaucoup, on ne peut rien faire, nous, en tant que FFI, en dehors de dire, écoutez, on a vu votre petit jeu, arrêtez d'imaginer, de nous faire croire que c'est la faute de l'Europe, c'est une décision intérieure, vous avez décidé de faire payer plus cher l'industrie, et donc de la mettre dans une situation de concurrence à l'international difficile. Ouais. Voilà. Qui fait qu'on ferme des usines. Mmh. Donc en gros, on rembourse les dettes d'EDF et de l'État sur le dos des jobs des ouvriers dont on ferme l'usine. Mmh. C'est pas très glamour, quand même. Bon. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est qu'on est dans un pays très complexe. On a une capacité à faire des règlements, des lois, des petits décrets, des choses, d'appliquer même la réglementation européenne qui est déjà contraignante, à faire qu'elle soit encore plus contraignante. Ouais. Donc il faut qu'on arrive à se faire un peu plus confiance, parce qu'en fait tout vient de là. Si vous voulez une administration qui vient tout contrôler, c'est que vous vous méfiez de votre voisin. Il y a un moment, il va falloir qu'on accepte que des gens réussissent en France et que ça ne soit pas forcément parce que ce sont des voleurs.
Donc votre fonds, il va investir dans des entreprises françaises qui produisent en France, plutôt des petites moyennes entreprises industrielles que vous voudriez faire passer comme des ETI, donc des entreprises à taille intermédiaire, c'est
exactement. Il manque 50% de ce qu'on appelle les ETI, c'est-à-dire des entreprises qui font moins de 250 plus de 250 employés jusqu'à 4999, qui est le seuil pour devenir grande entreprise. Il faudrait qu'on en ait deux fois plus si on s'en compare, par exemple, à des
aux Allemands, aux Italiens.
Ils sont très forts là-dessus. Donc, pourquoi c'est important les ETI ? C'est que ce sont des entreprises qui sont suffisamment importantes pour embaucher, former, investir, exporter. Donc, c'est des entreprises qui créent beaucoup d'emplois et on n'a pas assez de ces ETI. Donc, comment faire pour créer des ETI le plus facilement possible ? Alors, il y a eu, et ça c'est aussi l'une des explications de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ferme des usines, c'est qu'on a pris, on a eu une vision qui vient des start-up qu'on a appliquée à l'industrie. Ouais. On s'est dit, il nous faut des entreprises de rupture avec des technologies qui sont nouvelles, donc on prend un risque financier hyper important, alors que vous avez plein de PME qui ont des clients, qui fonctionnent bien, qui ont des produits qui marchent, vous investissez chez ces gens-là, et là, eh ben, tout d'un coup, vous les faites passer à l'échelle avec un risque illimité.
Merci beaucoup, Laurent Moisson, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.